France Inter.
Il y a un cri de contact de rouge-gorge.
CO2, mon amour.
Alors, dès qu'on entend un cri de contact, notre but, c'est d'essayer de le faire arriver à son champ de territoire, qui est très très beau, qui sont comme des perles qui tombent sur une table mais qui ne s'arrêtent jamais.
Denis Chessou.
C'est Messiaen qui disait ça, c'est très très beau. C'est un chant qui ne s'arrête pas, il n'y a pas de ponctuation. Il ne finit pas ses phrases. C'est en l'air, en fait.
Sur France Inter.
Bonjour à toutes et à tous. Oui, c'est bien CO2 mon amour, la nature et les plumes qui chuchotent à vos oreilles, avec aujourd'hui Laurent Baudouin à la technique, notre collaboratrice c'est Camille Blanès et Juliette Gou réalise l'émission. Alors dans ces moments d'actualité joyeuse, je souhaite vous faire partager un joli moment. J'ai eu la chance de recevoir de la LPO le Macareux d'or en 2009, sorte de Légion d'honneur au pays des Piafs. Et puis le week-end dernier, j'étais dans le très beau parc naturel régional des Baronnies Provençales, dans la Drôme. Et je suis devenu l'heureux parrain de la Maison des Vautours à Rémusat. 340 habitants et 350 couples de vautours depuis leur réintroduction en 1996. Et je ne sais même pas que je m'appelle vautour. C'est dérivé du latin vulture, arraché, déchiré, bec crochu, cou dénudé pour mieux pénétrer les chairs, me nourrissant de charognes et de détritus. Ah, tu parles d'une carte de visite. Va te faire aimer les humains adorant leurs minuscules animaux de compagnie après ça, mais ne comprenant pas grand-chose à la vie sauvage. Alors j'ai été empoisonné, flingué, diabolisé, bref, du classique chez les humains qui adorent le délit de sale gueule. Mais grâce au travail d'abord des frères Terrasse en Lozère, nous avons d'abord repeuplé les gorges de la Jonte et du Tarn. Et aujourd'hui, merci à l'association Vautour en Baronnie, merci Christian Tessier, le PNR, Olivier Salin, le maire de Rémusat, la Comcom, la région, Marie-Pierre Mouton, présidente du département, la députée Marie Pochon, la fédération de chasse Rémi Gandis, ici, le préfet Thierry de Vimeux, qui connaît bien la nature. Alors, pourquoi au-delà du financement et de l'aide qui ont été apportées, je tiens à les citer? Parce qu'en ce moment, de l'histoire mondiale et française où l'écologie est reléguée, piétinée, rabotée par Bercy, et joue chez nous aussi donc le rôle de bouc émissaire, eh bien, une action, cette goutte d'eau commune de personnes qui ont dépassé leur clivage politique pour créer ce lieu génial, ça fait tout simplement du bien. Et oui, j'ai ma maison des vautours. Tous ces élus associatifs se sont mis d'accord grâce à moi. Et vous ne savez même pas le nombre de maladies et la prolifération de bactéries qu'on vous a évitées en faisant nos courses sur les cadavres. Et puis, je suis un exemple de sobriété écologique. Je dois consommer le moins d'énergie. J'utilise les vents, les ascendants, sans borne de recharge. Je recycle, me nourris avec ce qui existe et donc limite l'épuisement des ressources naturelles sans faire livrer ma bouffe par un garçon exploité à bicyclette. Je maintiens les grands équilibres biologiques, vous savez, un peu comme le loup d'ailleurs, mais dans les Hautes-Alpes voisines, lui, il n'aura pas sa maison. Ou alors ce sera une dernière demeure. Comme l'argument entendable est celui de l'argent, vous imaginez ce que vous auriez payé au ramasseur de déchets, en lieu et place de l'écarisseur naturel que je suis. Parce qu'avant, on apportait les cadavres à Lyon. Bien et service rendu par la nature, qu'ils disent. Alors je vois les choses avec le recul de 30 millions d'années au compteur et plusieurs milliers de mètres au-dessus de votre agitation frénétique. Alors bien sûr, restez lucide sur la situation du vivant qui nous amène une gentille écologie du vide, mais ne pas désespérer. Votre regard a changé, je suis donc l'objet, moi le vautour, de vos attentions. Le lien animal, sauvage, tourisme, économie locale est évident. Et l'identité de Rémusat est liée à celle du vautour, c'est tant mieux. François Morel, qui est aussi l'heureux président des Vautours en Baronnie et créateur d'Apo, vous le retrouverez dans CO2 Mon Amour, est aussi donc un homme qui est très content. Alors merci Monsieur Vautour, tu nous fais lever la tête au ciel, donc quitter nos écrans qui nous font regarder vers le bas. Regardons haut, loin, et venez visiter cette maison à Rémusat dans la Drôme, au pied du pic du Caire où circulent nos oiseaux. Bravo! Détente donc garantie, toujours avec des oiseaux, loin du fracas du monde, avec le peuple du ciel et des arbres, migrants et migrateurs ailés, peuple d'eau, d'oiseaux, de bêtes. Alors pas de vautours dans les minutes qui viennent, mais des oiseaux assurément, grâce au gosier de nos chanteurs d'oiseaux, deuxième épisode en Baie-de-Somme.
désespéré quand je vois le monde. Je me lève et je vois les feuilles tomber. J'ai vu d'en haut que la terre est ronde, que le vent tourne. J'ai plus de montre et plus de temps. Je suis désemparé mais je dois avancer. En hiver le temps s'invite à danser. Je cours. Avec un félin dans un appartement. Au moins ils sont ce que je ressens. Mais pas fou. La terre est toujours en mouvement. Tu ne pourras plus m'empêcher d'avancer. Moi j'aime quand ça va doucement. Je l'avoue. Et tous les jours j'attends qu'il pleuve. Enfin j'ai plongé dans le fleuve. C'est tant d'épreuves. En amour, il faut des preuves. Changement de saison, je reviens à la maison. Rêver, rêver. Quand la nuit tombe, le cœur a ses raisons.
Elle a dit, Julia, j'aime quand ça va doucement. Eh bien, écoutez, ça tombe assez bien, l'émission qui prend le temps de ne pas aller trop vite. Allez, on regarde vers le ciel. Et attention, il va y avoir un petit cri, là.
Alors là, on vient de rentrer, on a entendu un cri d'alarme, mais en fait, c'est un vol territorial d'épervier. On vient de voir le mâle qui tourne autour du bois de pin, et on voit tout de suite les oiseaux qui se signalent en disant, attention, l'épervier vole.
C'est déjà fini, parce qu'ils reprennent leur place, là. Vous avez vu ? Ils refont des champs de territoire. Il est revenu. Il est là-bas, un peu plus loin.
Ouais. On entend la mésange bleue là qui est en train de signaler qu'il y a un épervier qui est en vol. Alors quand elle le voit comme ça voler d'une manière un petit peu exubérante, il y a moins de danger pour les passereaux.
Et d'ailleurs, les oiseaux jouent à 1, 2, 3 épervier.
Bien sûr.
1, 2, 3 épervier, ça veut dire épervier, poum, je me fige, je ne fais plus rien, je ne bouge plus et je fais attention à moi.
Dans le bois de Brighton, bois dunaire qui retient la terre et le sable, nous sommes à Cailleux-sur-Mer, donc dans la Somme. Dans le bois de Brighton, il y a deux garçons, alors je dis toujours garçons parce que je les ai connus, ils avaient 10 ans et 12 ans. Bon, Jean Boucaud et Johnny Ras s'imprègnent, regardent, écoutent. Ils n'ont pas de syrinx comme les oiseaux, mais un larynx comme chacun d'entre nous, une langue, un sifflet, des doigts, et ils ont inventé leur métier, chanteurs d'oiseaux. Alors on a croisé dans ce bois trois gendarmes, qui étaient assez sympas d'ailleurs, et ils n'étaient pas exactement en mission naturaliste. En face, l'Angleterre, Hastings, est à 100 km. C'est le double de la distance depuis Calais, mais on veut passer. Et chez les oiseaux, il n'y a pas d'objectif, on va dire, intenable en permanence, dicté par un N+1 ou un algorithme qui décide pour vous. Il n'y a pas d'évaluation permanente insupportable aussi, pas de souffrance à chanter, de burn-out, mais attention, la vie territoriale de nourrissage, de reproduction est quand même rude. Il faut chanter et ruser, s'adapter en permanence. La nature et les oiseaux nous font du bien, c'est un des credos de CO2 Mon Amour depuis longtemps, vous le savez. Et on savait ça aussi, donc, avant de lire aussi Ornithérapie de Rousseau et Dubois, mais c'est mieux en l'écrivant. Alors ici, on l'expérimente, ça va de soi. Et leur livre à eux, donc à Jean Boucaud et Johnny Ras, c'est « Chanteurs d'oiseaux, l'histoire vraie d'un destin donc fabuleux », qui est sorti en format de poche aux éditions des Arènes. Deuxième volet de nos chanteurs d'oiseaux pour fêter le printemps, avec la Manche, la bête somme toujours recommencée pour voyeuse de lumière, de phoques, de vivants et d'oiseaux.
On a eu besoin d'écrire notre histoire. Ça a changé beaucoup de choses, je crois. C'est-à-dire que parler de nous-mêmes, avant on faisait que les oiseaux, on était comme des passeurs. Et par la poésie de ce geste, en effet, les gens avaient les yeux écarquillés, nous disaient bravo. Ils disaient aussi qu'ils allaient écouter la nature différemment. Donc c'était déjà un premier geste d'écologie. Et aujourd'hui, en fait, en écrivant notre histoire, on rentre plus dans notre intime et on se dit que tout est possible. En fait, c'est aussi un livre sur le rêve. C'est-à-dire que tout est possible. On peut créer notre métier en s'émerveillant de la poésie de la nature, en ouvrant les yeux et en étant sensible, en fait. Parce que je crois que la sensibilité, c'est que ça, en fait, c'est la clé. C'est de regard à 360, écouter partout, sentir, voir, observer. C'est aussi, les premiers... Darwin, c'est ce qu'il a fait au début. C'est-à-dire qu'il a observé pour pouvoir commenter, et puis ensuite...
Se poser des questions. Et trouver les réponses, ou en tout cas mettre des bonnes hypothèses pour essayer d'expliquer ce qu'il voyait, ce qu'il a compris.
Et ceci avec un peu plus de 20 ans quand il est parti sur le Beagle. Hein, donc il était
vraiment,
il était tout jeune. Hein,
donc, il était tout jeune et il n'était pas parti pour ça.
Non.
Surtout, on avait l'impression de ça, il était un peu perdu. Et d'un coup, il va découvrir... c'est ce qu'il dit, le monde.
Mais tu parles d'un voyage, il y a d'autres voyages qui se sont faits. Ça, c'est un départ de cette nuit de migrants.
Ah ouais.
C'est un tas de...
Bah, de vêtements,
affaires,
de vêtements, de sacs.
Des gens qui se vident de tout.
Ils se vident de tout avant de traverser la Manche.
Avant un bateau et d'espérer d'aller ailleurs. Donc c'est toujours un peu émouvant de voir
ils
ça
ont
parce
tout
que
laissé, ils
couverture,
ont laissé,
tout.
Ils ont laissé les déos, ils ont tout laissé pour partir.
Alors l'oiseau, avant de partir, lui, s'engraisse, il change de plumage.
Et, eux,
et là, la différence, c'est qu'il se vide de tout.
Il se délaisse.
Et avec un espoir énorme de notre destinée.
Tu sais pourquoi il veut traverser ? Pour aller rejoindre sa copine. Il a fait 4000 km à pied pour aller la trouver. Et maintenant, il veut traverser la Manche à la nage. Moi, quand t'es parti, j'ai même pas été foutu de traverser la rue pour t'attraper.
C'est un lieu de transit pour tous les êtres vivants, pour tous les animaux et les humains, de voyager.
Là, on dit que c'est un carrefour migratoire.
Alors est-ce qu'il y a des espèces, on va dire, qui causent plus, qui sont plus sociables que d'autres, inévitablement, là aussi donc,
Les espèces les plus territoriales.
Ouais, c'est ça.
Quand même. Je pense.
C'est celles qui me répondent le plus, forcément.
Bien sûr. Le rouge-gorge, il va causer très facilement. Par exemple, le rossignol, c'est très compliqué de rentrer en contact avec lui. C'est un oiseau un peu, je sais pas, mondain, peut-être. C'est pas d'ailleurs des codes qu'on n'a pas, mais c'est pas facile. Mais faut jamais faire...
Ça domine trop.
Ça y répond pas. Ouais. Ça y répond pas.
Trop dominant, là.
Ah, trop dominant.
D'ailleurs, ce que je reprochais à Johnny quand il était petit, il fait toujours des oiseaux dominants. Et pour justement s'insérer dans la nature, il faut toujours être, non pas dominant, il faut justement s'insérer en commençant par un oiseau avec une hiérarchie faible.
Voilà.
Et c'est comme ça que les autres vont s'exprimer.
Oui, mais vous voyez, maintenant qu'il a passé la quarantaine, ça y est,
maintenant,
on a compris. Quelle reconnaissance qui est arrivée.
Bien sûr.
Alors, le rossignol Philomèle, enfin, ça fait partie aussi des stars que vous aimez, vous, Johnny. On a notre monsieur Goéland, Jean Boucaud, bon, je sais que vous les faites tous, hein. Mais vous, quand même, vous avez un rapport un peu particulier avec le rossignol, quoi. Et celui-là, ça fonctionne bien, quoi.
Celui-là, c'est surtout l'oiseau spectaculaire.
Ouais.
C'est l'oiseau de la performance, aussi. C'est un oiseau, en fait, quand on est sur scène et qu'on imite le rossignol Philomèle, il se passe quelque chose comme un morceau de bravoure d'un violoniste ou un morceau très virtuose.
Donc, Johnny, donc pas de rossignol, on va dire, arrogant, comme quand vous étiez gamin, pas du tout.
Non,
là,
c'est plutôt... C'est un rossignol lumineux.
Oui.
Qui amène de la lumière, en fait. Pardon. Et quelquefois, il amène pas de lumière. Il fait froid.
Non, mais... Allez.
J'imagine que vous avez votre fil conducteur du spectacle, mais en revanche, la partition d'oiseaux, elle doit varier à chaque fois.
Oui, il y a un peu d'improvisation, mais sur la musique écrite, il faut faire attention. Hein.
Ah oui, pardon, là c'est autre chose.
Ouais. Là, on revient à l'Orchestre Royal de Liège, en effet.
Oui, c'est précis, il y a des points où on doit intervenir avec l'oiseau, il y a un temps d'intervention, donc là c'est vraiment
normal,
c'est chiadé. Et donc c'est ce qu'on doit aussi faire, nous, c'est de nous adapter, transformer le chant d'oiseau pour qu'il s'insère dans la musique. Ça, c'est une démarche vraiment extraordinaire parce que elle est inimaginable de mélanger deux arts comme ça. Enfin, le naturalisme pur et l'associer à la musique écrite, et d'un seul coup, ça nous a demandé une autre écoute. Et on travaille avec deux cerveaux complètement différents. Donc là, il est reparti en merle, il a entendu un merle qui chante.
C'est vrai que c'est mon oiseau. C'est l'oiseau emblématique. Il y avait le goéland et il y avait le merle noir.
Et il y a le merle. Alors, on l'a partout, dans les jardins, etc. Donc, il est extrêmement commun pour les uns et pour les autres. D'un point de vue vocal.
Ah non, d'un point de vue vocal, pour moi, c'est la perfection.
Ah ouais.
Déjà, c'est un cadeau, c'est un oiseau qui nous a fait un cadeau. C'est un oiseau qui détestait les humains, qui vivait dans les forêts profondes et qui, petit à petit, s'est rapproché un peu par intérêt. Il a remarqué que l'humain avait une propension à faire des bonnes pelouses bien rases, ouais, et que c'était beaucoup plus simple de chercher des vers de terre là-dedans que de retourner des feuilles. Et donc, c'est un oiseau qui est extraordinaire parce qu'il a ce côté un peu comme on a un peu à la fois être sauvage et civilisé. En fait, c'est un oiseau sauvage qui s'est civilisé.
C'est vraiment un oiseau musicien. Il y a le chant qu'on entend là, territorial, la mélopée. Cri de contact. C'est presque comme des percussions. Tac, 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 avec de l'attaque en fait.
Ça,
cri de fuite, cri de fuite.
Ah ouais.
C'est génial.
Et puis le cri d'alarme qui est extraordinaire parce que c'est un oiseau qui alerte tout le monde. Ce son aigu là qu'il va faire, c'est le premier à voir le danger et c'est le premier à signaler à toute la sphère des passereaux qu'il y a un chat qui vient de sortir. Ça, c'est l'appel au dortoir aussi, quand il va se coucher.
Ah oui, quand il va se coucher.
Les copains et les copines.
Ah, il ramène son monde là.
Et il dit venez.
Ou alors il dit venez. Moi, je vais en tout cas.
Ouais, on y va, allez, hop. C'est prêt. Le lit est prêt. Ah ouais, ouais.
Qu'est-ce qu'on entend là?
Alors, il y a un troglodyte mignon et puis une fouette à tête noire. Alors, la fouette à tête noire, c'est un merle noir, mais très très énervé.
Deux techniques pour la fouette à tête noire, c'est très drôle. Et la technique Jean Boucaud, qui est un peu en sourdine, un peu timide, donc il essaie de l'amadouer de cette façon. Ou sinon, il y a, si on a une fouette à tête noire un peu courageuse, on peut avoir la technique Johnny Rass, beaucoup plus téméraire, beaucoup plus forte.
Très dominante,
évidemment.
Non, il n'y a pas le droit de le faire.
Si je le fais, alors quelquefois ça fonctionne, mais il ne veut pas me croire.
Alors parlez-nous aussi quand même de cette grive qui porte le nom de musicienne. Donc c'est pas pour rien, qui est aussi une imitatrice par ailleurs, mais donc celle-là, beaucoup de gens la connaissent, quoi. Donc
c'est facile à reconnaître une fois qu'on a compris le fonctionnement de son chant. Donc c'est une petite syllabe qu'elle va prendre et qu'elle va déclamer deux ou trois fois en répétant, avec des petits moments de pause. C'est le premier chant à 6h du matin qui un jour vous dit « Ah, ça y est, les beaux jours reviennent. »
C'est Bergson qui dit ça, la différence entre la durée et le temps. Et donc il y a un temps et il y a une durée. Et sauf que c'est l'oiseau bergsonien pour moi. C'est-à-dire que quand je rencontre une grive musicienne, il n'y a plus de temps. Je ne me rends pas compte du tout du temps et ça devient une durée. Mais pour les autres aussi. Et surtout pour ma mère qui m'attendait de l'école. Parce que quand je rentrais, que j'entendais une grive musicienne.
Tu t'arrêtais, oui.
Ah, mais c'était fou, je passais 4 heures à siffler et parce que c'est génial. Hein.
Tout le temps.
Ça improvise tout le temps.
C'est ça.
C'est merveilleux. Donc quand tu lui proposes un motif, elle en fait un autre. Donc tu peux passer mais 10 heures à essayer d'imiter
ce qu'elle fait. C'est plus une improvisatrice. Elle peut être imitatrice, mais c'est une improvisatrice.
Ah, c'est sublime. Et ça fait des trilles, mais de l'ordre du merle, en plus aigu, mais avec des trilles extraordinaires, des notes flûtées qui sont très très belles. C'est sublime.
Avec une inventivité incroyable, il y a certaines oiseaux virtuoses. C'est-à-dire que parfois on rencontre justement une griffe virtuose et là on passe. C'est un cours magistral de chant d'oiseau, c'est la griffe qui nous l'offre. Et il y a aussi des mauvaises griffes. Il y a des griffes qui chantent de manière assez moyenne, qui répètent toujours un peu la même phrase stéréotypée. Donc il y a aussi
bien meilleur qu'elle.
Celle-là, quand on les rencontre.
En tout cas, ma maman qui est toujours à arrêt quand elle entend une grive, elle ouvre la fenêtre et elle croit toujours que c'est moi qui rentre. C'est ça, c'est très très beau. Elle me le dit encore aujourd'hui. Elle fait, tu sais qu'hier j'ai cru que t'étais là.
C'était là.
J'ai regardé. C'était pas toi.
Ouais. Vous voyez, c'est ça qui est bien dans cette émission. On peut même convoquer Bergson. Eh oui, restez avec nous, parce que là, maintenant, on va convoquer les hirondelles.
J'ai trouvé dans tes cheveux un épi, deux épis. J'ai trouvé sur ta tête de quoi me faire un bouquet. J'ai trouvé dans tes yeux de navires qui naviguent, de petites planètes. J'ai trouvé sur ton nez. menton. Une miette de gourmandise dans le creux de ta main. Le reste la friandise. J'ai trouvé ce matin ton sourire plein de malice sur le pot de tes baisers. Sans poser des hirondelles qui annoncent le printemps. La saison sera belle sur le pot de tes baisers. Sans poser des hirondelles qui annoncent le printemps. La saison sera belle, j'ai trouvé.
Très joli ça, donc les hirondelles da Silva. Il faut juste simplement qu'on ait encore des hirondelles, donc des possibilités de les héberger, qu'elles aient de quoi se nourrir aussi, etc. etc. Et là, ah, écoutez ça.
Si Aigle Vaillant existe, comment ça se fait qu'on n'ait jamais entendu son cri de bataille?
CO2, mon amour.
J'en sais rien.
À quoi il pourrait ressembler le cri de bataille de Aigle Vaillant? Tu sais quoi, j'ai une idée. Peut-être quelque chose du genre...
Non, je parie que c'est plus du style.
Je pense que ça doit être un peu plus subtil. Un truc plus majestueux, style.
Je
arrêtez vos cris de aigle vaillant.
Denis Chessou.
Oui, bah, nous justement, c'est plus subtil avec nos chanteurs d'oiseaux, mais c'était bien, parce que ça permet de faire un contraste. Donc nous sommes toujours avec nos chanteurs d'oiseaux, donc avec leur ouvrage Chanteurs d'oiseaux aussi, donc en poche. Et puis leur spectacle, alors là, vous pouvez aller sur le site de CO2 Mon Amour, parce que vous retrouverez donc le site des chanteurs d'oiseaux si vous avez envie de les voir. Et aussi quand même, nous sommes dans la semaine du Festival de l'oiseau et de la nature d'Abbeville, il faut le dire. Alors c'est marrant parce que ces deux garçons viennent d'une commune qui s'appelle Arrêt. Alors ça s'écrit A2RE ST, mais si vous voulez, on dit Arrêt, alors que pour eux, Arrêt, c'est le début donc de leur carrière. On les retrouve. Ah là, la mer est là. Oui, la Manche n'est pas loin. Là, allons-y, parce que qu'est-ce qu'on peut avoir là? Chevalier, gambette, on peut avoir de la vaucette, qu'est-ce que l'on... Spatule...
Dans l'estuaire, en fonction des hauteurs d'eau,
bien sûr,
ils vont tous se répartir avec la longueur de leurs pattes. C'est ça qui est surprenant, c'est que ceux qui ont des petites pattes vont aller plutôt sur les zones de vase. Ouais. Donc ça va être les petits limicoles, les bécassos sanderling, les petits gravelots. Et puis plus tu vas aller vers les zones où l'eau vient juste de reculer, il y a encore 15 ou 20 cm d'eau, tu auras les chevaliers. Et puis le plus loin, évidemment, les spatules qui vont essayer d'attraper les petites crevettes en suspension. Un courlis cendré qui est en train de passer. Ça, c'est vraiment le maestro de la baie de Somme. Chaque fois que j'entends son chant, moi, ça me fait trembler tellement. C'est tellement beau, ce trémolo. Quand on voit l'oiseau, finalement, il est quand même pas très, très joli. Il est quand même un très long bec.
C'est le premier oiseau que Jean a essayé d'imiter et c'était pas terrible.
Alors, oui, mais ça a attrapé. C'est que je l'imitais avec ma technique de mésange. J'arrive même pas à le faire. Ouais, voilà, j'arrive. Je faisais comme ça. Voilà, c'est ça que je faisais quand j'étais enfant. Ah
ouais, et maintenant que vous êtes un peu moins enfant.
Et maintenant.
Les produits phytosanitaires sont l'une des causes majeures du déclin de certaines espèces d'oiseaux et d'insectes. Sophie Lénard, de l'Institut national de recherche agronomique, elle a coordonné l'étude.
Les effets se manifestent par des perturbations des facultés d'orientation des oiseaux et des effets indirects, puisque ces insecticides ont un effet direct sur les populations d'insectes et un effet indirect sur la ressource alimentaire pour les oiseaux.
Alors qu'est-ce que l'on constate quand même aujourd'hui sur le fameux déclin des oiseaux? Ça va dépendre des espèces, on s'en doute bien, mais entre le réchauffement d'un côté, entre les aires de nourrissage qui ne sont plus les mêmes, qu'est-ce que vous constatez?
Je me pose toujours la question de savoir si un petit garçon ou une petite fille qui naîtrait maintenant aujourd'hui pourrait devenir ce qu'on est devenu, pourrait avoir dans sa tête plus de chants d'oiseaux que de mots de français ou de mots d'anglais ou que de codes. Enfin, moi, j'ai l'impression d'être envahi par les chants d'oiseaux. C'est-à-dire que dès que j'entends un chant d'oiseau, je sais ce que c'est, je le vois, je l'imagine.
Vous êtes déjà bilingue.
On a grandi dans un univers d'oiseaux, ouais. Et qui malheureusement maintenant presque disparaît. Ça m'est déjà arrivé de m'arrêter sur le bord de la route et d'entendre absolument rien. C'est-à-dire qu'on est au printemps, on avait un spectacle, tu te rappelles, dans le
Massif. Oui, et même c'est même significatif sur les enfants. C'est-à-dire que les enfants aujourd'hui, par exemple, la dernière fois, Jean a imité une tourterelle des bois.
Ah oui.
Avec voilà, une petite... voilà. L'enfant en premier rang, il fait... Grenouille.
Ah oui.
Non, c'est pas une grenouille, mais en fait, ça veut dire aussi que lui, dans sa mémoire émotive, il a plus du tout la tourterelle. Il a jamais entendu.
Alors c'est vrai qu'elle chante pas longtemps, elle arrive au 1er
oui,
mai.
Oui, oui. Mais si on fait un juillet, coucou, c'est pareil.
Et quand
si
on fait le coucou, les enfants ne connaissent même pas le chant du coucou. Il y a un grain pro.
Alors le grain pro, grimper, grain pro.
Ah oui, c'est un petit bijou aussi, hein. C'est une petite souris qui monte. Et puis il y a son petit son caractéristique. Alors, c'est un peu dur pour
bonjour, monsieur. Bonjour.
C'est un oiseau qui ne nous répond pas.
Ah d'accord.
Il ne nous répond pas, il s'en fiche. Et ça fait du bien aussi dans la vie de rencontrer des êtres qui s'en fichent de vous. Et bien le grain pro, c'en est un.
Ah, bon, voilà. Bon, est-ce qu'il y a encore des oiseaux qui vous échappent là, dans votre syringue personnelle?
Oui, beaucoup, plein. Et tant mieux.
Ouais.
Et tant mieux. Ça veut dire qu'il y a encore des sons à aller glaner.
C'est-à-dire
à chercher.
Qu'on va rappeler que nous avons à peu près 10 000 oiseaux dans le monde. Et puis alors combien? 200, 300 en France ou...
Oui, c'est ça. Ceux qui peuvent les voir, ils sont très heureux quand ils ont vu 250 espèces d'oiseaux en France.
Ils ont coché.
Ils ont coché.
Ouais. Coché.
Oui.
Alors ça, c'est un truc qu'on j'ai complètement arrêté. Ouais, j'avais un livre où j'ai toutes mes coches. Et puis je l'ai perdu à l'âge de 16 ans, justement pour aller voir un oiseau rare. Donc depuis ce temps-là,
stop,
je ne coche plus rien.
Bon. On rappelle que pour les ornithologues, les amoureux des oiseaux, donc cocher, une fois qu'ils ont vu un nouvel oiseau, ça veut dire qu'ils ont coché donc, cet oiseau.
Il y a des oiseaux qui vous résistent là, l'un et l'autre ou,
Oui, alors,
les fourmettes aquatiques, tout ce qui est rousserolles, les phragmites, ça c'est quand même assez compliqué.
La phragmite des joncs,
ah, c'est dur, elle, ouais. Elle est coquine. On fait des petits morceaux, mais on ne peut jamais se satisfaire, c'est pas assez rapide. Elle chante sans jamais s'arrêter, on a du mal à suivre le rythme.
Elle est très rapide, très très rapide, c'est l'oiseau techno. Hein.
Ah ouais. Ouais.
Avec plein de métal en plus, donc c'est un mélange de genres. Il y a un côté métallique très compliqué quand même, ouais. Hein, qu'on n'arrive pas vraiment à avoir. Pareil, les oiseaux en Amazonie, on en a quelques-uns, mais
c'est compliqué.
C'est pas facile.
On se rend compte en fait que le biotope va jouer sur la sélection du chant et sur la forme de l'onde sonore qui va se propager. Notre oreille, elle a été faite, on s'est formé à un son des estuaires ou des forêts européennes qui a une tessiture, un son particulier. Quand on voit en Amazonie, il y a une espèce de diphonie métallique.
C'est pas du tout la même chose, c'est très luxuriant, c'est fort, c'est puissant.
Et donc le but aussi pour l'oiseau, c'est de se faire entendre le plus loin possible en dépensant le moins d'énergie. Donc la sélection a favorisé les oiseaux qui avaient justement cette capacité à trouver la bonne note, la bonne tessiture pour que le son aille très loin, sans se faire repérer aussi. Ça c'est très important, alors, c'est des choses que nous on n'imagine pas, mais l'oiseau se met en danger quand il chante, quand il siffle. Donc c'est pour ça que les cris d'alarme en Europe sont très aigus, parce qu'un son très aigu, on l'entend mais ça bourdonne, et pour le prédateur, il n'arrive pas à localiser l'émetteur. Un son grave, on l'entend plus loin, mais on repère un caca qui tousse de loin. Vous voyez, tout de suite, on sait d'où ça vient. Ils l'ont pas. Je vois des gens loin, je leur fais coucou. Mais donc le coucou, alors, pourquoi je fais le coucou? Parce que là, on est au début avril et on espère entendre ce premier chant. Il y a une espèce de... Je pense que vraiment, le printemps, il y a le premier chant du Puyo Velos, et puis la première hirondelle, et puis il y a le premier chant du coucou. Ce mâle qui arrive, là, qui a traversé les forêts équatoriales d'Afrique, les déserts du Sahara, la Méditerranée, pour arriver là, se poser sur cet arbre, et choisir que ce territoire est à lui. Faire son coucou, de nuit, de jour, sous la tempête, sous toutes les conditions, en espérant qu'une femelle vienne se poser avec lui, et viennent parasiter les petits passereaux.
Et oui, puisque c'est comme ça le but. Hein, donc...
Ouais, tous ces milliers de kilomètres, juste pour pouvoir parasiter des nids. que la femelle puisse pondre ses œufs dans le passereau qu'il a élevé. Ça, c'est juste incroyable, c'est que chaque femelle a des couleurs d'œufs qui sont différents. Il y a des œufs bleus, des œufs marrons, des œufs blancs. Chaque femelle donc, est spécialisée sur une espèce qu'elle va parasiter. Mm-hmm. Il y a des femelles coucous qui parasitent les accentuaires mouchés, il y a des femelles coucous qui parasitent des fauvettes à tête noire. Alors, fauvettes à tête noire, parce que c'est un mauvais exemple, parce que les fauvettes à tête noire abandonnent le nid quand elles sont parasitées par un coucou.
La femelle, elle le voit.
Elle le voit, elles sont capables d'abandonner. C'est un oiseau qui nous fait, tous les ans, nous rendre compte de la beauté des interactions entre les êtres vivants. Finalement, par le parasite, on se rend compte de la beauté de la vie et de la sphère autour. Et comment est-ce qu'on peut accepter un parasite quand il y a justement une exubérance de la vie et qu'il y a beaucoup d'espèces d'oiseaux oui. Dès qu'il y a une diminution des espèces, l'espèce qui va être la plus en danger, c'est le coucou gris.
Mais alors, il y a un mimétisme aussi au niveau des coquilles d'œufs, la couleur des...
Alors, il y a un mimétisme, mais qui est finalement un mimétisme choisi depuis des millions d'années. En fait, on comprend la sélection naturelle en comprenant la sélection des femelles de l'hôte et du parasite. C'est-à-dire que les femelles qui font les œufs de la bonne couleur, les œufs vont être acceptés, vont être élevés. Les petits vont être élevés tous les ans par des rouges-gorges. Les petites femelles coucous vont penser rouge-gorge. Étant élevées par des rouges-gorges, elles connaissent les codes du rouge-gorge. Elles sont tellement adoptées, tellement été élevées qu'elles comprennent les cris de contact, elles comprennent à quelle hauteur est le nid, elles comprennent comment est fabriqué le nid.
La culture, le langage.
Elles comprennent la culture, tout. Le langage. Et donc, quand elles vont être l'année suivante, le bébé, la petite femelle qui va être née dans le nid de rouge-gorge,
elles viseront de toute façon.
Elles viseront le rouge-gorge, puisque justement, elles sont rouge-gorge.
Et donc, d'autres iront chez d'autres passereaux, n'auront pas le rouge-gorge en tête, mais auront.
Alors la femelle avec des œufs, avec des petites taches, qui va parasiter des fauvettes, elle va plutôt chercher ça et sera plutôt élevée, parce que si justement l'œuf est trop dichromique, s'il n'a pas la même couleur, il y a des grandes chances qu'il soit rejeté par la femelle ou dévoré par l'incubatrice.
On vous a écouté, on vous a entendu, mais on vous a aussi sacrément donc écouté. Moi je vous remercie parce que vous nous faites un bien fou. Là je peux vraiment dire, de la part de tous les auditeurs là, qui nous écoutent, vous nous faites du bien. Voilà, vous nous apprenez des choses et vous nous faites du bien. Et c'est là que l'on a cette passerelle qui est très intéressante entre la création artistique et le monde du vivant pour faire passer donc une histoire.
C'est une chance qui nous a été donnée, c'est qu'on a pris la scène. Il faut avoir du courage d'aller sur la scène. Tu sais que c'est compliqué hein, quand on était tout petit, quand on faisait ces concours et qu'il y avait 1000 personnes qui nous regardaient, qui nous parfois nous jugeaient en fait, d'accepter le jugement. Mais ça te donne aussi un devoir d'amener un message, une qualité de message et une force dans le propos. De travailler beaucoup, c'est-à-dire que depuis que notre enfance, on travaille des champs d'oiseaux,
énormément.
On cherche à toujours s'améliorer.
Ah, vous faites vos gammes. Là,
avec le pire du pire qui arrive, en fait, c'est que tu cherches à ne plus perdre. Quand tu vieillis, tu vois aussi ton corps qui te quitte un peu, en fait, tes cordes vocales sont moins puissantes, tu as moins de souffle, et donc tu dois aussi te battre contre toi-même pour rester jeune dans ta façon d'interpréter le champ d'oiseaux. Et ça apporte aussi une forme d'humilité, parce que ça va aussi nous obliger à transmettre, à partager, et puis à faire d'autres rencontres pour toujours porter plus haut notre chance d'enfance, c'est de savoir parler oiseaux.
Et comme le dirait Lavoisier, rien ne se perd, tout se transforme. Et aujourd'hui, avec le temps, je sens que la corneille arrive. C'est un oiseau que j'ai jamais réussi à faire.
Ouais.
Jamais, jamais. Et avec le temps, comme la voix se transforme, les corvidées sont peut-être possibles en fait.
Oui.
C'est drôle.
Pas mal, à travailler encore un petit peu, mais sinon pas mal. Ah oui, d'accord. Eh bien, au revoir, cher Johnny, et puis au revoir, Jean.
Au revoir, Denis.
Au revoir, Denis. Et tu vas très vite.
Bah tiens.
Tiens.
Oui. Puis moi, je vais repartir avec quelques oiseaux comme ça au fond de ma gorge.
Et puis un goéland, Jean, un goéland.
Même si vous n'alliez pas mal, je sais que vous vous sentez mieux, on se sent tous mieux. C'était une masterclass donc, de nos chanteurs d'oiseaux, Jean Boucaud, Johnny Rass, que vous retrouvez donc, dans cet ouvrage hein, aux éditions des Arènes. On fera des spectacles et le monde entier viendra nous voir. On s'appellera les chanteurs d'oiseaux. Et bah ouais, ils étaient ados quand ils avaient écrit ça. Et c'est une réalité. Grand merci pour le mixage Théo de Lobadère, à Camille Blanest, notre collaboratrice, à Juliette Gou, qui a très bien réalisé donc, cette émission.
émission. Programmation musicale de Thierry Dupin. La semaine prochaine, on va changer de lieu. Tiens, bah, tenez, je vous parlais d'un drôme. Eh ben, on en a profité pour faire aussi un reportage, c'est-à-dire réensauvageons les fermes. On va se retrouver à la ferme de Grand Laval, ouais, pour voir donc où ces gens-là en sont, et ça fonctionne très bien sur leurs 50 hectares. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter plein de choses agréables. Ah si, tenez, sur le site donc de Radio France, vous avez ce podcast qui s'appelle Parole de Piaf, hein. Vous avez de la cygne, du chouette, des chouettes, du flamand, etc. Donc Parole de Piaf, si vous aimez donc les oiseaux, ce qui ne m'étonnerait pas. On se retrouve sur Instagram, sur LinkedIn, sur Blue Sky, et voilà. Et maintenant, cette fois-ci, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de dimanche.